Fragment du long article de l'encyclopédie Femme, publié sous la rubrique de Femme morale. Ce nom seul touche l'âme, mais il ne l'élève pas toujours. Il ne fait naître que des idées agréables, qui deviennent un moment après des sensations inquiètes ou des sentiments tendres. Et le philosophe, qui croit contempler, n'est bientôt qu'un homme qui désire ou qu'un amant qui rêve. Une femme se faisait peindre. Ce qui lui manquait pour être belle était précisément ce qui la rendait jolie. Elle voulait qu'on ajoutât à sa beauté, sans rien ôter à ses grâces. Elle voulait tout à la fois, et que le peintre fût infidèle, et que le portrait fût ressemblant. Et voilà ce qu'elles seront toutes pour l'écrivain qui doit parler d'elles. Cette moitié du genre humain, comparée physiquement à l'autre, lui est supérieure en agrément, inférieure en force. La rondeur des formes, la finesse des traits, l'éclat du teint, voilà ses attributs distinctifs. Les femmes ne diffèrent pas moins des hommes par leur cœur et par leur esprit que par la taille et par la figure. Mais l'éducation a modifié leur disposition naturelle en tant de manière. La dissimulation, qui semble être pour elles un devoir d'État, a rendu leur âme si secrète. Les exceptions sont en si grand nombre, si confondues avec les généralités, que plus on fait d'observations, moins on trouve de résultats. Il en est de l'âme des femmes comme de leur beauté. Il semble qu'elles se fassent apercevoir que pour laisser imaginer. Il en est des caractères en général, comme des couleurs. Il y en a de primitives, il y en a de changeantes, il y en a des nuances à l'infini pour passer de l'une à l'autre. Les femmes n'ont guère que des caractères mixtes, intermédiaires ou variables. Soit que l'éducation altère plus leur naturel que le nôtre, soit que la délicatesse de leur organisation fasse de leur âme une glace qui reçoit tous les objets, les rend vivants et n'en conserve aucun. Qui peut définir les femmes? Tout à la vérité parle en elles, mais un langage équivoque. Celle qui paraît la plus indifférente est quelquefois la plus sensible. La plus indiscrète passe souvent pour la plus fausse. Toujours prévenu, l'amour ou le dépit dicte les jugements que nous emportons. Et l'esprit le plus libre, celui qui les a le mieux étudiés, en croyant résoudre des problèmes, ne fait qu'en proposer de nouveaux. Il y a trois choses, disait un bel esprit que j'ai toujours beaucoup aimé, sans jamais rien comprendre. La peinture, la musique et les femmes. S'il est vrai que de la faiblesse naît la timidité, et de la timidité la finesse, et de la finesse la fausseté, il faut conclure que la vérité est une vertu bien estimable dans les femmes. Si cette même délicatesse d'organe qui rend l'imagination des femmes plus vive rend leur esprit moins capable d'attention, on peut dire qu'elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regarder moins longtemps. Que j'admire les femmes vertueuses, si elles sont aussi fermes dans la vertu que les femmes vicieuses me paraissent intrépides dans le vice. La jeunesse des femmes est plus courte et plus brillante que celle des hommes. Leur vieillesse est plus fâcheuse et plus longue. Les femmes sont vindicatives. La vengeance, qui est l'acte d'une puissance momentanée, est une preuve de faiblesse. Les plus faibles et les plus timides doivent être cruels. C'est la loi générale de la nature qui, dans tous les êtres sensibles, proportionne le ressentiment au danger. Mais comment seraient-elles discrètes? Elles sont curieuses. Et comment ne seraient-elles pas curieuses? On leur fait mystère de tout. Elles ne sont appelées ni au conseil, ni à l'exécution. Il y a moins d'union entre les femmes qu'entre les hommes, parce qu'elles n'ont qu'un objet. Distinguées par des inégalités, les deux sexes ont des avantages presque égaux. La nature a mis d'un côté la force, la majesté, le courage et la raison. De l'autre, les grâces et la beauté, la finesse et le sentiment. Ces avantages ne sont pas toujours incompatibles. Ce sont quelquefois des attributs différents qui se servent de contrepoids. Ce sont quelquefois les mêmes qualités, mais dans un degré différent. Ce qui est agrément ou vertu dans un sexe est défaut ou difformité dans l'autre. Les différences de la nature devaient en mettre dans l'éducation. C'est la main du statuaire qui pouvait donner tant de prix à un morceau d'argile. Pour les hommes qui partagent entre eux les emplois de la vie civile, l'état auquel ils sont destinés décide de l'éducation et la différencie. Pour les femmes, l'éducation est d'autant plus mauvaise qu'elle est plus générale et d'autant plus négligée qu'elle est plus utile. On doit être surpris que des âmes si incultes puissent produire tant de vertus et qu'ils n'y germent pas plus de vices. Des femmes qui ont renoncé au monde avant que de le connaître sont chargées de donner des principes à celles qui doivent y vivre. C'est de là que souvent une fille est menée devant un autel pour s'imposer par serment des devoirs qu'elle ne connaît point et s'unir pour toujours à un homme qu'elle n'a jamais vu. Plus souvent, elle est rappelée dans sa famille pour y recevoir une seconde éducation qui renverse toutes les idées de la première et qui, portant plus sur les manières que sur les mœurs, échange continuellement des diamants mal taillés ou mal assortis contre des pierres de composition. C'est alors, c'est après avoir passé les trois quarts du jour devant un miroir et devant un clavecin, que Chloé entre avec sa mère dans le labyrinthe du monde. Là, son esprit errant s'égare dans mille détours, dont on ne peut sortir qu'avec le fil de l'expérience. Là, toujours droite et silencieuse, sans aucune connaissance de ce qui est digne d'estime ou de mépris, elle ne sait que penser, elle craint de sentir, elle n'ose ni voir ni entendre. Ou plutôt, observant tout avec autant de curiosité que d'ignorance, voit souvent plus qu'il y en a, entend plus qu'on ne dit, rougit indécemment, sourit à un contresens, est sûre d'être également reprise de ce qu'elle a paru savoir et de ce qu'elle ignore, attend avec impatience, dans la contrainte et dans l'ennui, qu'un changement de nom l'amène à l'indépendance et au plaisir. On ne l'entretient que de sa beauté, qui est un moyen simple et naturel de plaire, quand on n'est pourtant point occupé, et de la parure, qui est un système de moyens artificiels pour augmenter l'effet du premier ou pour en tenir lieu, et qui le plus souvent ne fait ni l'un ni l'autre. L'éloge du caractère ou de l'esprit d'une femme est presque toujours une preuve de laideur. Il semble que le sentiment et la raison ne soient que le supplément de la beauté. Après avoir formé Chloé pour l'amour, on a soin de lui en défendre l'usage. La nature semble avoir conféré aux hommes le droit de gouverner. Les femmes ont eu recours à l'art pour s'affranchir. Les deux sexes ont abusé réciproquement de leurs avantages, de la force et de la beauté. Ces deux moyens de faire des malheureux. Les hommes ont augmenté leur puissance naturelle par les lois qu'ils ont dictées. Les femmes ont augmenté le prix de leur possession par la difficulté de l'obtenir. Il ne serait pas difficile de dire de quel côté est aujourd'hui la servitude. Quoi qu'il en soit, l'autorité est le but où tendent les femmes. L'amour qu'elles donnent les y conduit. Celui qu'elles prennent les en éloigne. Tâcher d'en inspirer, s'efforcer de n'en point sentir, ou de cacher du moins celui qu'elles sentent, voilà toute leur politique et toute leur morale. Cet art de plaire, ce désir de plaire à tous, cette envie de plaire plus qu'une autre, ce silence du cœur, ce dérèglement de l'esprit, ce mensonge continuel appelé coquetterie s'embête dans les femmes un caractère primitif qui naît leur condition naturellement subordonnée injustement servile, étendue et fortifiée par l'éducation, ne peut être affaiblie que par un effort de raison et détruite que par une grande chaleur de sentiment. On a même comparé ce caractère au feu sacré qui ne s'éteint jamais. Voyez entrer Chloé sur la scène du monde. Celui qui vient de lui donner le droit d'aller seul, trop aimable pour aimer sa femme ou trop disgracié de la nature, trop désigné par le devoir pour en être aimé, semble lui donner encore le droit d'en aimer un autre. Vaine et légère, moins empressée de voir que de se montrer, Chloé vole à tous les spectacles, à toutes les fêtes. À peine y paraît-elle qu'elle est entourée de ces hommes qui, confiants et dédaigneux, sans vertu et sans talent, séduisent les femmes par des travers, mettent leur gloire à les déshonorer, se font un plaisir de leur désespoir et qui, par les indiscrétions, les infidélités et les ruptures, semblent augmenter chaque jour le nombre de leurs bonnes fortunes. Espèce d'oiseleur, qui font crier les oiseaux qu'ils ont pris pour en appeler d'autres. Suivez Chloé au milieu de cette foule empressée. C'est la coquette venue de l'île de Crète au temple de Cnide. Elle sourit à l'un, parle à l'oreille à l'autre, soutient son bras sur un troisième, fait signe à deux autres de la suivre. L'un d'eux lui parle-t-il de son amour? C'est Darmide. Oh, elle le quitte à ce moment. Elle le rejoint un moment après, et puis le quitte encore. Sont-ils jaloux les uns des autres? Oh, c'est la célibaine du misanthrope. Elle les rassure tour à tour par le mal qu'elle dit à chacun d'eux de ses rivaux. Ainsi, mêlant artificieusement les dédains et les préférences, elle réprime la témérité par un regard sévère. Elle ranime l'espérance avec un sourire tendre. C'est la femme trompeuse d'Archiloque qui tient l'eau d'une main et le feu de l'autre. Mais plus les femmes ont perfectionné l'art de faire désirer, espérer, poursuivre ce qu'elles ont résolu de ne point accorder, plus les hommes ont multiplié les moyens d'en obtenir la possession. L'art d'inspirer des désirs qu'on ne veut point satisfaire a tout au plus produit l'art de feindre des sentiments qu'on n'a pas. Chloé ne veut se cacher qu'après avoir été vue. Damis s'est arrêté en feignant de ne la point voir. L'un et l'autre, après avoir parcouru tous les détours de l'art, se retrouvent enfin où la nature les avait placés. Il y a dans tous les cœurs un principe secret d'union. Il y a un feu qui, caché plus ou moins longtemps, s'allume à notre insu, s'étend d'autant plus qu'on fait plus d'efforts pour l'éteindre, et qui ensuite s'éteint malgré nous. Il y a un germe où sont enfermés la crainte et l'espérance, la peine et le plaisir, le mystère et l'indiscrétion, qui contient les querelles et les raccommodements, les plaintes et les ris, les larmes douces et amères. Répandu partout, il est plus ou moins prompt à se développer, selon les secours qu'on lui prête et les obstacles qu'on lui oppose. Comme un faible enfant qu'elle protège, Chloé prend l'amour sur ses genoux, badine avec son arc, se joue avec ses traits, coupe l'extrémité de ses ailes, lui lie les mains avec des fleurs. Et déjà prise elle-même dans des liens qu'elle ne voit pas, se croit encore en liberté. Et tandis qu'elle l'approche de son sein, qu'elle l'écoute, qu'elle lui sourit, qu'elle s'amuse également et de ceux qui s'en plaignent et de ceux qui en ont peur, un charme involontaire la fait tout à coup le presser dans ses bras. Et déjà l'amour est dans son cœur. Elle n'ose encore s'avouer qu'elle aime, elle commence à penser qu'il est doux d'aimer. Tous ses amants qu'elle traîne en triomphe à sa suite, elle sent plus d'envie de les écarter qu'elle n'eut de plaisir à les attirer. Oh, il en est un sur qui ses yeux se portent sans cesse, dont il se détourne toujours. On dirait quelquefois qu'elle s'aperçoit à peine de sa présence, mais il n'a rien fait qu'elle n'ait vu. S'il parle, ne paraît point l'écouter. Mais il n'a rien dit qu'elle n'ait entendu. Lui parle-t-elle au contraire? Sa voix devient plus timide, ses expressions sont plus animées. Va-t-elle au spectacle? Est-il moins en vue? Il est pourtant le premier qu'elle y voit, son nom est toujours le dernier qu'elle prononce. Si le sentiment de son cœur est encore ignoré, ce n'est plus que d'elle seule. Il a été dévoilé par tout ce qu'elle a fait pour le cacher. Il s'est irrité par tout ce qu'elle a fait pour l'éteindre. Elle est triste, mais sa tristesse est un des charmes de l'amour. Elle cesse enfin d'être coquette à mesure qu'elle devient sensible et semble n'avoir tendu perpétuellement des pièges que pour y tomber elle-même. J'ai lu que, de toutes les passions, l'amour est celle qui sied le mieux aux femmes. Il est du moins vrai qu'elle porte ce sentiment qui est le plus tendre caractère de l'humanité, à un degré de délicatesse et de vivacité où il y a bien peu d'hommes qui puissent atteindre. Leur âme semble n'avoir été faite que pour sentir, elle semble n'avoir été formée que pour le doux emploi d'aimer. À cette passion qui leur est si naturelle, on donne pour antagoniste une privation qu'on appelle l'honneur. Mais on a dit, et il n'est que trop vrai, que l'honneur semble n'avoir été imaginé que pour être sacrifié. À peine Chloé a-t-elle prononcé le mot fatal à sa liberté, qu'elle fait de son amant l'objet de toutes ses vues, le but de toutes ses actions, l'arbitre de sa vie. Elle ne connaissait que l'amusement et l'ennui, elle ignorait la peine et le plaisir. Tous ses jours sont pleins, toutes ses heures sont vivantes, plus d'intervalles languissants. Le temps, toujours trop lent ou trop rapide pour elle, coule cependant à son insu. Tous ces noms si vains, si chers, ce doux commerce de regards et de sourires, ce silence plus éloquent que la parole, mille souvenirs, mille projets, mille idées, mille sentiments, viennent à tous les instants renouveler son âme et étendre son existence. Mais la dernière preuve de sa sensibilité est la première époque de l'inconstance de son amant. Les nœuds de l'amour ne peuvent-ils donc jamais se resserrer d'un côté et qu'ils ne se relâchent de l'autre? S'il est parmi les hommes ou quelques âmes privilégiées en qui l'amour, loin d'être affaibli par les plaisirs, semble emprunter d'eux de nouvelles forces, pour la plupart c'est une fausse jouissance qui, précédée d'un désir incertain, est immédiatement suivie d'un dégoût marqué qu'accompagne encore trop souvent la haine ou le mépris. On dit qu'il croît sur le rivage d'une mer des fruits d'une beauté rare et qui, dès qu'on y touche, tombent en poussière. C'est l'image de cet amour éphémère, veine saillie de l'imagination, fragile ouvrage des sens, faible tribut qu'on paye à la beauté. Quand la source des plaisirs est dans le cœur, elle ne tarit point. L'amour fondé sur l'estime est inaltérable, il est le charme de la vie et le prix de la vertu. Uniquement occupé de son amant, Chloé s'aperçoit d'abord qu'il est moins tendre. Elle soupçonne bientôt qu'il est infidèle. Elle se plaint, il la rassure. Il continue d'avoir des torts, elle recommence à se plaindre. Les infidélités se succèdent d'un côté, les reproches se multiplient de l'autre. Les querelles sont vives et fréquentes, les brouilleries longues, les raccommodements froids, les rendez-vous s'éloignent, les têtes à tête s'abrègent, toutes les larmes sont amères. Chloé demande justice à l'amour. Mais qu'est devenu, dit-elle, la foi des serments? Mais c'en est fait. Chloé est quittée. Elle est quittée pour une autre. Elle est quittée avec éclat. Livrée à la honte et à la douleur, elle fait autant de serments de n'aimer jamais qu'elle en avait fait d'aimer toujours. Mais quand une fois on a vécu pour l'amour, on ne peut plus vivre que pour lui. Quand il s'établit dans une âme, il y répand je ne sais quel charme qui altère la source de tous les autres plaisirs. Quand il s'envole, il y laisse toute l'horreur du dessert et de la solitude. C'est sans doute ce qui a fait dire qu'il est plus facile de trouver une femme qui l'ait pointue d'engagement que d'en trouver une qui n'en ait eu qu'un. Le désespoir de Chloé se change insensiblement en une langueur qui fait de tous ses jours un tissu d'ennui. Accablée du poids de son existence, elle ne sait plus que faire de la vie. C'est un rocher aride auquel elle était attachée. Mais d'anciens amants rentrent chez elle avec l'espérance. De nouveau se déclarent. Des femmes arrangent des soupers. Elle consent à se distraire, elle finit par se consoler. Elle a fait un nouveau choix qui ne serait guère plus heureux que le premier, quoique plus volontaire, et qui bientôt sera suivi d'un autre. Elle appartenait à l'amour, la voilà qui appartient au plaisir. Ses sens étaient à l'image de son cœur, son esprit est à l'usage de ses sens. L'art, si facile à distinguer partout ailleurs de la nature, n'en est ici séparé que par une nuance imperceptible. Chloé s'y méprend quelquefois elle-même, et qu'importe que son amant y soit trompé s'il est heureux. Il en est des mensonges de la galanterie comme des fictions de théâtre, où la vraisemblance a souvent plus d'attrait que la vérité. Horace fait ainsi la peinture des mœurs de son temps. À peine une fille est-elle sortie des jeux innocents de la tendre enfance, qu'elle se plaît à étudier des danses voluptueuses et tous les arts et tous les mystères de l'amour. À peine une femme est-elle assise à la table de son mari, que d'un regard inquiet, elle y cherche un amant. Bientôt, elle ne choisit plus, elle croit que dans l'obscurité, tous les plaisirs sont légitimes. Bientôt aussi, Chloé arrivera à cette dernière période de la galanterie. Déjà, elle fait donner à la volupté toutes les apparences du sentiment, à la complaisance tous les charmes de la volupté. Elle sait également et dissimuler des désirs, et feindre des sentiments, et composer des ris, et verser des larmes. Elle a rarement dans l'âme ce qu'elle a dans les yeux. Elle n'a presque jamais sur les lèvres ni ce qu'elle a dans les yeux, ni ce qu'elle a dans l'âme. Ce qu'elle a fait en secret, elle se persuade de l'avoir point fait. Ce qu'on lui a vu faire, elle s'est persuadée qu'on ne l'a point vu. Et ce que l'artifice des paroles ne peut justifier, ses larmes le font excuser, ses caresses le font oublier. Les femmes galantes ont aussi leur morale. Chloé s'est fait un code où elle a dit qu'il est malhonnête à une femme, quelque goût qu'on ait pour elle, quelque passion qu'on lui témoigne, de prendre l'amant d'une femme de sa société. Il est dit encore qu'il n'y a point d'amours éternels, mais qu'on ne doit jamais former un engagement quand on en prévoit la fin. Elle a ajouté qu'entre une rupture et un nouveau nœud, il faut un intervalle de 6 mois. Et tout de suite, elle a établi qu'il ne faut jamais quitter un amant sans lui avoir désigné un successeur. Chloé vient enfin à penser qu'il n'y a qu'un engagement solide ou ce qu'elle appelle une affaire suivie qui perde une femme. Elle se conduit en conséquence. Elle n'a plus que de ses goûts passagers qu'elle appelle fantaisie, qui peut bien laisser former un soupçon, mais qui ne lui donne jamais le temps de se changer en certitude. Le public porte à peine la vue sur un objet qui lui échappe, déjà remplacé par un autre. Je n'ose dire que souvent il s'en présente plusieurs tout à la fois. Dans les fantaisies de Chloé, l'esprit est d'abord subordonné à la figure. Bientôt la figure est subordonnée à la fortune. Elle néglige à la cour ce qu'elle a recherché à la veille à l'île, méconnaît à la ville ce qu'elle a prévenu à la campagne, et oublie si parfaitement le soir la fantaisie du matin qu'elle en fait presque douter celui qui en a été l'objet. Dans son dépit, il se croit dispensé de taire ce que l'on a dispensé de mériter, oubliant à son tour qu'une femme a toujours le droit de nier ce qu'un homme n'a jamais le droit de dire. Il est bien plus sûr de montrer des désirs à Chloé que de lui déclarer des sentiments. Quelquefois, elles permettent encore des serments de constance et de fidélité, mais qu'il aperçoit des maladroits, qui lui tient parole et perfide. Le seul moyen qu'il y aurait de la rendre constante serait peut-être de lui pardonner d'être infidèle. Elle craint plus la jalousie que le parjure, l'importunité que l'abandon. Elle pardonne tout à ses amants et se permet tout à elle-même, excepté l'amour. Plus que galante, elle croit cependant n'être que coquette. C'est dans cette persuasion qu'à une table de jeu, alternativement attentive et distraite, elle répond du genou à l'un, serre la main à l'autre en louant ses dentelles, et jette en même temps quelques mots convenus à un troisième. Elle se dit sans préjugé parce qu'elle est sans principe. Elle s'arroge le titre d'honnête homme parce qu'elle a renoncé à celui d'honnête femme. Et ce qui pourra vous surprendre, c'est que dans toute la variété de ses fantaisies, le plaisir lui servirait rarement d'excuse. Elle a un grand nom et un mari facile. Tant qu'elle aura de la beauté ou des grâces, ou du moins les agréments de la jeunesse, les désirs des hommes, la jalousie des femmes lui tiendront lieu de considération. Ses travers ne l'exileront de la société que lorsqu'ils seront confirmés par le ridicule. Il arrive enfin ce ridicule, plus cruel que le déshonneur. Chloé cesse de plaire et ne veut point cesser d'aimer. Elle veut toujours paraître et personne ne veut se montrer avec elle. Dans cette position, sa vie est un sommeil inquiet et pénible, un accablement profond mêlé d'agitation. Elle n'a guère que l'alternative du bel esprit ou de la dévotion. La véritable dévotion est l'asile le plus honnête pour les femmes galantes. Mais il en est peu qui puissent passer de l'amour des hommes à l'amour de Dieu. Il en est peu qui, pleurant de regret, sachent se persuader que c'est de repentir. Il en est peu même qui, après avoir affiché le vice, puissent se déterminer à feindre du moins la vertu. Il en est beaucoup moins qui puissent passer du temple de l'amour dans le sanctuaire des muses et qui gagnent à se faire entendre ce qu'elles perdent à se laisser voir. Quoi qu'il en soit, Chloé, qui s'est tant de fois égarée, courant toujours après de vains plaisirs et s'éloignant toujours du bonheur, s'égare encore en prenant une nouvelle route. Après avoir perdu 15 ou 20 ans à lorgner, à persifler, à minauder, à faire des nœuds et des tracasseries, après avoir rendu quelque honnête homme malheureux, s'être livré à un fat, s'être prêté à une foule de sots, cette folle change de rôle, passe d'un théâtre sur un autre, et ne pouvant plus être frinée, croit pouvoir être Aspasie. Oh, je suis sûr qu'aucune femme ne se reconnaîtra dans le portrait de Chloé. En effet, il y en a peu dont la vie ait eu ces périodes aussi marquées. Il est une femme qui a de l'esprit pour se faire aimer, non pour se faire craindre, de la vertu pour se faire estimer, non pour mépriser les autres, assez de beauté pour donner du prix à sa vertu. Également éloignée de la honte d'aimer sans retenue, du tourment de n'oser aimer et de l'ennui de vivre sans amour, elle a tant d'indulgence pour les faiblesses de son sexe que la femme la plus galante lui pardonne d'être fidèle. Elle a tant de respect pour les bienséances que la plus prude lui pardonne d'être tendre. Laissant aux folles dont elle est entourée la coquetterie, la frivolité, les caprices, les jalousies, toutes ces petites passions, toutes ces bagatelles qui rendent leur vie nulle ou contentieuse, Au milieu de ces commerces contagieux, elle consulte toujours son cœur qui est pur et sa raison qui est saine, préférablement à l'opinion, cette reine du monde qui gouverne si despotiquement les insensés et les sots. Heureuse la femme qui possède de ces avantages, et plus heureux celui qui possède le cœur d'une telle femme. Enfin, il en est une autre, plus solidement heureuse encore. Son bonheur est d'ignorer ce que le monde appelle les plaisirs. Sa gloire est de vivre ignorée. Renfermée dans les devoirs de femme et de mère, elle consacre ses jours à la pratique des vertus obscures. Occupée du gouvernement de sa famille, elle règne sur son mari par la complaisance, sur ses enfants par la douceur, sur ses domestiques par la bonté. Sa maison la demeure des sentiments religieux, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse maternelle, de l'ordre, de la paix intérieure, du doux sommeil et de la santé. Économe et sédentaire, elle en écarte les passions et les besoins. L'indigent qui se présente à sa porte n'en est jamais repoussé. L'homme licencieux ne s'y présente point. Elle a un caractère de réserve et de dignité qui la fait respecter, d'indulgence et de sensibilité qui la fait aimer, de prudence et de fermeté qui la fait craindre. Elle répand autour d'elle une douce chaleur, une lumière pure qui éclaire et vivifie tout ce qui l'environne. Est-ce la nature qui l'a placée, ou la raison qui l'a conduite au rang suprême où je la vois ? Fin de l'article de M. Desmahis.